voix nue. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, Thibaut Henneton rencontre Gérard Bérébi. Ce soir, Alia et au-delà.
Nous nous retrouvons ce soir pour un cinquième et dernier entretien avec le fondateur et directeur des éditions Alia. Bonsoir Gérard Bérébi.
Bonsoir.
Nous arrivons bientôt au terme de cette série d'entretiens. Et évidemment, je pense déjà à tout ce qu'on n'aura pas évoqué à la fin. Par exemple, je me rends compte que je ne vous ai pas demandé si vous étiez né avec ce prénom Gérard. C'est celui que votre mère vous a donné ?
En fait, mon identité est une chose un peu compliquée. Je m'appelle Bérébi. Mon premier prénom, c'est Mordechai. C'est Mardoché en français. Mon deuxième prénom est Gérard. Et on m'a toujours appelé Gérard depuis tout petit. Et quand nous avons été naturalisés, évidemment, c'est ma mère qui s'est rendue à la préfecture. Ma mère parlait très mal le français, était quasi analphabète. Et elle est tombée sur un employé de préfecture qui avait ses raisons et qui a trouvé plaisir, certainement, j'imagine, à l'humilier en lui disant... Mais on ne peut pas garder un prénom comme ça si vous êtes naturalisé français. J'imagine, connaissant ma mère, étant terrorisée par quelqu'un dont elle comprenait plus ou moins ce qu'il lui disait. Et il lui a dit, il faut trouver un prénom français qui commence par M pour moi, puisque c'était Mordechai, Mardoché. Pour mes frères et sœurs, c'était la même chose. Et comme ma mère devait être paralysée et ne savait pas quoi répondre, il a dû dire, eh ben Marc, pour moi. Et donc, ma mère, elle a dit oui. Et donc, sur mes papiers officiels, c'est un peu une schizophrénie, mais ça va, je me porte assez bien. C'est écrit Bérébi, Marc, Gérard. Donc, légalement, je dois répondre au prénom Gérard qui m'est totalement étranger. C'est-à-dire que si je suis dans la rue et quelqu'un dit Marc, je ne réagirai pas.
Elle est toujours vivante, votre mère ?
Non. Elle est morte à 90 ans après une vie assez éprouvante avec 5 enfants toute seule, mais elle a fait ce qu'elle devait faire.
Et... Elle faisait des ménages pour vous.
Oui, elle travaillait, elle a fait des ménages pour nous nourrir, pour nous élever. C'est-à-dire que si vous voulez, la question ne se posait pas pour elle, c'était notre mère et elle avait 5 enfants. Les aléas de la vie fait qu'elle s'était retrouvée toute seule et dans une situation assez difficile matériellement, notamment quand on arrivait en France. Et si vous voulez, c'était des gens de cette génération où on ne se posait pas de questions si on pouvait, si on pouvait pas, si c'était difficile ou pas difficile. C'est-à-dire qu'il y avait une réaction de femme, de mère, que je trouve très honorable, c'est-à-dire qu'elle nous a élevés, elle s'est donné les moyens de nous élever et elle a fait ce qu'il fallait faire pour ça, quoi.
Quel regard portait-elle sur votre évolution ? Vous êtes le seul, si je ne m'abuse, de vos 4 frères et sœurs à avoir fait une carrière, disons, intellectuelle, pour le dire vite.
C'est une question délicate parce que c'est une question familiale, mais c'est aussi une question générale pour tous les individus de la société, c'est-à-dire des gens qui ne restent pas dans leur milieu, dans leur rang, et qui prennent une direction autre. Et ça provoque, je ne dirais pas des dissensions, mais des petits problèmes qui se sont totalement estompés et qui ont disparu avec le temps. Mais quelque part, il se prend pour qui ? Pour vous donner une idée de la chose.
Votre mère ou vos frères et sœurs, vos
oncles ? Un petit peu, oui, oui. Mais ça n'était pas violent, ça n'était pas agressif, mais il y avait un petit peu de cela parce que j'allais ailleurs.
Et de la fierté sur la fin ou...
Énorme.
Vous êtes aujourd'hui un éditeur parisien qui plus est, mais vous n'avez pas de mots assez durs contre le monde de l'édition.
Mais c'est parce que j'ai des mots assez durs sur tous les mondes. C'est-à-dire que j'ai une vision assez sombre et extrêmement critique sur le monde dans lequel nous vivons. Et puis le monde de l'édition est un monde de copinage, un monde incestueux, comme tous les mondes. C'est-à-dire que en France, on assiste à quelque chose où c'est un repli à travers les origines, à travers la formation des élites, à travers l'appartenance à un milieu intellectuel à un milieu social et les choses sont terriblement incestueuses à travers des renvois d'ascenseurs, ce qui n'empêche pas qu'au milieu de tout ça, il y ait des bonnes choses qui soient faites. Et comme par nature, ça ne me plaît pas, eh ben, j'en fais pas partie.
Vous avez des anecdotes, vous avez été confronté à ce milieu réactionnaire, incestueux, aux règles immuables, comme vous dites.
C'est pas ça, c'est-à-dire que ma façon de faire, comme je ne viens pas de ce milieu, forcément différait. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la manière dont vous faites les choses, c'est ce que vous faites. Maintenant, si vous faites par exemple un morceau de musique et que je l'écoute et que je le trouve bon, après je peux vous demander comment vous l'avez fait, mais c'est pas la chose qui m'importe. Et donc j'ai fait à ma manière, c'est-à-dire un peu provocant, des fois un peu brutal, et puis comme la chose existe maintenant réellement sur la durée, c'est-à-dire la maison à 37 ans d'âge,
800 titres
la
au
maison à
catalogue.
près de 800 livres au catalogue, et on publie régulièrement des livres, et régulièrement on crée la surprise parce qu'on invente quelque chose malgré l'ancienneté de la maison. On est bien obligé de faire avec. Mais si vous voulez, je fais ce qu'il faut faire, mais je ne fais pas partie du milieu, je fais partie d'aucune corporation, je ne prends pas position sur des problèmes de la profession, ça ne m'intéresse pas. Je suis arrivé, j'ai vu un état de fait, j'ai voulu faire des choses dans ce domaine-là, je fais avec ce qui existe comme ça existe, et je n'ai aucune envie, et je trouve ça d'un ennui mortel pour moi, que de me préoccuper des questions de corporation. D'ailleurs, je n'aime pas le corporatisme, parce que ça limite la création. C'est-à-dire que le corporatisme, par essence, je suis ici et je suis payé pour faire ça, mais je ne suis pas là pour faire ça. Or, moi, je veux qu'on puisse tout faire à la fois.
Et la question, vous dites, c'est pourquoi personne d'autre n'a adopté cette singularité, la singularité d'Alia? On sait notamment aux droits de Gail Marcus ou ceux des miscellanées.
Bah oui, Gray Marcus, c'est très simple. C'est Gray Marcus a écrit un livre aux États-Unis qui est un véritable livre culte, où il parle des dadaïstes, des Sex Pistols et des lettristes et situationnistes.
Lipstick Traces, que vous sortez en 1998.
À l'époque, il y avait en France très peu de livres sur la musique. Et le livre de Gray Marcus n'est pas vrai, véritablement un livre sur la musique, mais il parle du mouvement punk et des Sex Pistols. Quand j'ai découvert ce livre, j'ai voulu acquérir les droits, donc j'ai cherché, je me suis adressé à un agent, et comme personne ne s'y intéressait et que personne ne voulait le publier en France, moi, quand j'ai voulu acquérir les droits, je les ai acquis avec les moyens de ma maison d'édition, c'est-à-dire une avance dérisoire, parce que je ne pouvais pas acheter des livres chers ou des choses comme ça. Et pour les miscellanées, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire quand j'ai découvert ce livre et que j'ai écrit à Bloomsbury, qui est un éditeur qui est, je ne sais pas, je vais peut-être dire une bêtise, mais qui est 10 000 fois plus important qu'Alia. Ils étaient tout étonnés de recevoir une demande d'une maison qu'ils ne connaissaient absolument pas, mais en même temps, personne ne voulait le publier, et donc on a traité ensemble. Et ça vient d'une certaine frilosité,
Parce que c'est un
c'est-à-dire...
livre très particulier, il faut peut-être le décrire un peu.
Oui, c'est un livre qui a été pour nous un très grand succès. C'est ce qu'on appelle un best-seller. Et généralement, une maison comme la nôtre, quand elle touche à un best-seller, se retrouve dans des volumes de production et de vente assez délirants. Ce qui fait que bien souvent, c'est ce qu'a dit le patron de Bloomsbury quand je l'ai rencontré après le succès des miscellanées. Il m'a dit, j'ai prévenu l'auteur que quand une maison de votre taille touche à un livre pareil, si jamais le livre est un succès, généralement ils font faillite, et j'ai prévenu l'auteur que nous risquions de ne pas être payés parce que ces gens-là n'ont pas l'envergure de maîtriser un développement, ce qui est tout à fait juste. Or, on a maîtrisé le développement et on a payé tout ce qu'on devait à Bloomsbury et à Ben Schott, qui en est l'auteur. Et les miscellanées, c'est un livre d'apparence très divertissante, mais qui en même temps extrêmement bien fait et avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de connaissances. Ça prend toutes sortes d'occurrences et ça les expose à travers des différents exemples. Et ça touche à des domaines très divers et variés. Par exemple, les chanteurs qui se sont suicidés jeunes. Donc il en donne une liste, mais il y a toujours un commentaire pour donner de la hauteur à la chose. Ça peut être sur un plat de cuisine, ça peut être sur un roman, ça peut être sur toutes sortes de choses.
Les insultes utilisées par Shakespeare dans ses pièces, l'histoire de la taxe sur les chapeaux, enfin, on pourrait citer.
À la seule, et puis quand ce livre est paru, rien de ce genre n'existait en France. Et puis comme d'autres livres que j'ai lancés, après ça s'est développé. Par exemple, je parlais des livres sur la musique quand on a lancé ça en 98. Depuis, plusieurs maisons d'édition ont créé des livres consacrés à la musique rock, punk, pop, etc. De la même manière, les quantités de miscellanées de toutes sortes qui se sont publiées en France après ce livre-là, on ne les compte plus. Et ce que je veux dire à propos de l'édition, puisque vous avez ressorti cette phrase où j'ai la dent dure contre ce milieu, contre tous les milieux, comme je vous l'ai précisé, c'est que ça manque d'inventivité. Puisque si demain je développe de la littérature portugaise et que le public s'y intéresse et qu'on en parle et que j'ai un certain succès, eh ben, les gens ils disent on va peut-être faire de la littérature portugaise. Et de cette manière-là, on tue la chose. C'est-à-dire qu'en multipliant les livres sur la musique, on sature un marché et ça c'est propre au système capitaliste, c'est-à-dire qu'il empêche une certaine forme d'artisanat qui a un potentiel créatif, parce que dès que de ce milieu-là dans lequel nous travaillons tous les jours, qui est comme un laboratoire expérimental, nous sortons quelque chose qui rencontre un certain écho et qui représente de l'argent, ils se jettent tous dessus pour le multiplier jusqu'à le détruire, jusqu'à l'invention de la prochaine chose.
Vous fonctionnez beaucoup à l'intuition, vous l'avez dit. Par exemple, je songe à l'ouvrage de Yanaira Isaku avec Giacometti. Vous ne parlez pas le japonais, mais vous découvrez au hasard d'une lecture sur le peintre et sculpteur Giacometti ce nom d'Isaku.
C'est presque tout à fait ça. Ben, c'était à une période de Noël. La maison d'édition était fermée pendant une semaine. J'étais seul chez moi et j'étais fiévreux. Et c'était une période où je m'intéressais beaucoup à Giacometti. Et j'ai ce mode de fonctionnement, quand je m'intéresse à quelque chose, c'est un peu compulsif, donc j'ai lu un peu tout ce qui existait sur Giacometti. Et j'ai lu à ce moment-là, chez moi, la biographie de James Lord consacrée à Giacometti. Et à un moment, il cite Yanaïala, il cite un passage. Et je sens que c'est quelque chose qui manque dans tout ce que j'ai lu sur Giacometti, mais James Lord passe assez vite là-dessus. Et puis, j'y étais, quoi, je l'ai fait. J'ai été bien inspiré parce que tout le monde dit que c'était un peu le chaînon manquant dans la connaissance de Giacometti, parce que c'est un témoignage capital, parce que cet homme a été le modèle de Giacometti. Giacometti s'est pris d'intérêt pour lui et il l'a beaucoup aimé. Il était venu du Japon pour étudier en France pendant une période donnée. Et Giacometti l'empêchait quasi de rentrer chez lui et multiplier les séances de pause, etc. Comme il avait compris qu'il avait affaire à quelqu'un d'assez important, dès qu'il sortait d'une séance de pause, il rentrait dans le premier café et il griffonnait ses cahiers de tout ce que lui racontait Giacometti, parce que Giacometti avait ce côté un peu, j'allais dire, névrotique, c'est-à-dire que quand il travaillait et qu'il avait un modèle face à lui, il parlait tout le temps. Et donc, il rapporte des choses à propos de Giacometti tout à fait passionnantes. L'histoire a débordé. Il est même, à un moment, il a été l'amant de la femme de Giacometti. Évidemment, Giacometti le savait et a fermé les yeux. Il n'y a pas eu de brouille. Mais je vois très bien comment on fait les choses. On a un livre. Alors, comme celui-ci, j'ai cette idée. Alors, je vais prendre un lecteur de japonais. Je vais lui donner le livre. Il va me faire une note de lecture. On va soupeser l'intérêt de la note de lecture à travers ses avantages et ses inconvénients. On va faire une rapide étude pour savoir quel est le coût de ce livre, à combien d'exemplaires il peut se vendre, est-ce qu'il risque d'avoir un peu de presse. Décider si... Déjà de vous énumérer ça, ça me tue, quoi.
Désolé.
Mais je pense qu'il faut laisser jaillir les choses et avec les résultats que vous voyez.
Vous avez d'autres exemples comme ça, un peu de découvertes comme ça, au hasard, d'une note de bas de page ou d'un petit court passage
Bah plein. Par exemple, le livre de Maurice Joly, je l'ai découvert en lisant un livre de Boris Souvarine, qui est une biographie de Staline. Et à un moment, Souvarine écrit quasi une page sur Maurice Joly que je ne connaissais absolument pas. Et d'ailleurs, quand j'ai publié la première édition du livre de Maurice Joly, sur le rabat, j'ai cité tout le passage de Souvarine. C'est-à-dire, c'est des liens qui s'opèrent comme ça, et ça crée une communauté d'esprit, parce que j'ai lu Souvarine, que j'ai rencontré quand j'étais très jeune. Il était dans une maison de retraite avec sa femme dans le 14e arrondissement. C'était quelqu'un qui m'a terriblement impressionné de par son parcours et des textes qu'il a écrits. S'il parle de Maurice Joly, ça me frappe, et ce qu'il en disait était assez attirant pour moi, pour que j'aille chercher Maurice Joly, le trouver, et à ce moment-là, j'ai décidé de le publier.
Et des paris réussis, donc comme celui-ci, où il y en a eu, et des ratés,
Ben, il y en a eu plein.
par exemple.
Ben, il y a eu plein de livres qu'on a lancés qui n'ont pas marché, mais avec cette particularité, c'est que on est très fier de ce qu'on fait. Et on croit en ce qu'on fait. Ce qui fait que, par exemple, actuellement, nous allons republier un livre de Boris Vildé qui s'appelle Journal et lettres de prison, qui est un livre que j'ai publié à 20 ans, qui a été un fiasco monumental. Personne n'en a parlé ou presque, mais en 20 ans, le tirage a fini par s'épuiser. Et je me comporte avec mon catalogue comme si j'avais hérité d'une maison d'édition patrimoniale que je dois perpétuer depuis 3 siècles, et puis je suis l'ultime descendant actuel qui doit remplir cette tâche. Or, la maison a été créée en 1982 par moi avec 3 fois rien. Mais ce comportement fait que parce que si on le fait, c'est qu'on pense que c'est important et que ça a de la valeur. Et quand je sors à nouveau le livre de Boris Vildé, qui, je le précise rapidement, était le responsable du premier mouvement de résistance en France, c'est-à-dire le réseau du Musée de l'Homme. Il a été fusillé par les nazis à peine 30 ans, un peu plus de 30 ans. Et ce livre-là rencontrera aujourd'hui, parce que la maison a une diffusion et une reconnaissance beaucoup plus large qu'à l'époque, son véritable public. Et c'est aussi une manière pour moi de payer mes dettes. C'est-à-dire que comme ces livres-là m'ont formé, c'est-à-dire que je me forme aussi parce que j'apprends des livres que je publie et donc je rembourse ma dette.
Une fois que vous avez eu une assise et une crédibilité à Alia avec un catalogue qui comptait environ 200 ouvrages, vous commencez à publier de la littérature contemporaine. Pourquoi avoir attendu?
J'ai attendu parce que je pensais qu'il fallait une relative assise pour commencer à l'époque, hein. Parce que c'est pas la même chose aujourd'hui ou 50 ans auparavant. J'ai pensé que d'abord je voulais faire un certain nombre de choses pour donner un peu la coloration, l'idée de l'esprit de ce que je voulais faire. Donc j'ai tenté de publier dans différents domaines un ou deux livres pour montrer le terrain que je souhaitais occuper et développer. Et puis à ce moment-là, j'ai décidé de faire un peu de littérature contemporaine. Et les premiers livres publiés en littérature contemporaine, j'ai publié le premier livre de Valérie Mregen, j'ai publié le premier livre de Patrick Ourédnik, dont je suis toujours l'éditeur, c'est-à-dire Européana, et j'ai publié le premier livre de Grégoire Bouillet, Le rapport sur moi, qui avait eu le prix de Flore à l'époque, pour dire les 3 livres de littérature contemporaine qui ont rencontré un certain écho.
Parce que parmi les avenants au catalogue de 2010, il y a un ouvrage de Valérie Mregen que vous citez, Liste rose, donc paru en 1997. Je cite, temps de préparation très long. Ah oui, vous le publiez qu'en 2007 finalement. Et
C'est ça.
vous dites invendable. Invendable,
Ben,
comment
Liste
vous...
rose est un livre particulier, c'est un livre que l'on a fait parce que avant que je ne publie le premier livre de Valérie Mregen est plasticienne. Et elle avait fait une exposition où elle avait découpé des noms dans l'annuaire du téléphone. Et chaque nom avait une connotation particulière entre le nom et les prénoms. Elle s'était amusée à faire ça et on l'a publié. Mais le premier livre que j'ai publié de Valérie Mregène, ça devait être à la fin des années 90 ou au début des années 2000, c'était mon grand-père.
Et puis, vous allez vous autoriser vous-même à écrire vos propres livres, deux recueils de poésie, encore plus tard. Hein, là, on est à la fin des années, du début des années
Oui,
2000.
j'ai commis deux recueils de poésie que j'ai publiés dans ma maison. Je dois dire que un ami s'est proposé de m'aider à les publier ailleurs, et très rapidement, les premiers échos que j'ai eus m'ont passablement agacé. J'ai stoppé net toute démarche et
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on vous a dit de désagréable?
je dirais pas désagréable, c'est-à-dire que si vous voulez, c'est un monde qui est assez cloisonné. Tout récemment, j'ai été sollicité par le MAMCO à Genève, qui est le musée d'art moderne et contemporain de Genève, que je ne connaissais pas. Le directeur m'a écrit pour me demander de participer à l'organisation d'une exposition autour des lettristes, du Beauce imaginiste, des mouvements qui ont constitué l'international situationniste, parce qu'il savait que j'avais fait des travaux là-dessus. En France, c'est des choses qui ne se font pas. C'est-à-dire qu'il faut être diplômé de l'école du Louvre, commissaire d'exposition attitré, etc. Et quand je dis que c'est un monde qui fonctionne en vase clos, c'est-à-dire que si le directeur du MAMCO à Genève, qui est suisse, a pensé qu'il y avait de l'intérêt à me demander de participer à une exposition, il avait ses raisons. Et donc, moi, j'ai accepté et j'ai fait le travail qui m'a été demandé. Mais en France, c'est replié sur soi, c'est fermé. Et ce que je veux dire par là, c'est que, ah, mais il est éditeur, ah, mais il écrit des poésies. Et puis, disons que pour ces choses-là, je suis facilement agaçable, donc je me suis retiré, et puis je les ai publiées moi-même.
Vous vous évadez aussi, Dalia, vous faites donc quand même des expositions à l'étranger, donc vous venez de le dire, des installations, c'est quelque chose dont vous avez besoin?
Ben, c'est-à-dire que j'ai toujours fait des choses, quoi, des dessins, des peintures, des collages, mais je les gardais pour moi, ou pour mes proches, mes amis, ma famille, les gens qui venaient chez moi, quoi, qui voyaient ça.
Il y en
Et
a ici dans
puis,
la pièce où on se trouve, là,
non, aucune.
des œuvres de vous, non?
En revanche, à un moment, j'ai fait un projet qui s'appelle Les Tables du Temps, qui est un ensemble d'installations et accompagné d'une vidéo.
À Prague.
Ça a d'abord été exposé à la Vieille Charité au Centre international de poésie de Marseille. Puis l'exposition a voyagé dans un musée à Prague, à la Galerie Dox, qui est le centre d'art contemporain de Prague. Là, je prépare une exposition assez conséquente où je vais présenter 200 pièces en Belgique. Et en même temps, je fais ces choses-là. D'abord, parce que ça m'est tout à fait naturel et j'en ressens le besoin, c'est-à-dire je l'ai fait, point. Et en même temps, c'est très bien pour moi que je puisse faire des choses apparemment différentes, parce que pour moi, c'est pas différent du tout. C'est-à-dire que le travail que je fais chez Alia en tant qu'éditeur et quand je fais une exposition, les choses se nourrissent les unes les autres et c'est moi qui les fais.
Mais c'est quand même un autre langage. Je pense à cette crise morale que vous relatez, que vous êtes à Montréal, nous sommes en novembre 2012, et vous dites à ce moment-là, je ressentais la perte des mots, un chamboulement intérieur. J'ai donc commencé à construire à partir de notes techniques et de croquis, quelque chose d'autre.
C'est-à-dire que bien souvent, je suis comme tout un chacun, je vis, j'observe les choses et les gens autour de moi, et il y a des choses des fois qui se cristallisent et qui restent, et puis beaucoup de choses sur lesquelles je glisse comme tout un chacun. Et ces choses-là, jusqu'à présent, je les traduis en mots et bien souvent sous une forme poétique. Et là, je me suis retrouvé à Montréal et je me remémorais différentes choses sur notre monde contemporain, des choses extrêmement violentes, sur le rapport des individus entre eux, sur la confrontation, sur le langage, sur l'impossibilité de parler à autrui. Et la chose se cristallisait en moi et la chose était lourde et insistante, mais rien ne sortait. Et c'est comme ça que j'ai eu l'impression que les mots ne me venaient pas ou ne me venaient plus dans ce moment-là. Et c'est là où j'ai mis en place un processus de construction, de sculpture avec des objets, chose que je faisais très peu parce que je faisais principalement des dessins, des collages, des peintures. Là, j'ai fait quelque chose de beaucoup plus grand et où j'ai fait se confronter des mondes entre eux. Et quand j'ai terminé cela, d'abord, ça avait un inconvénient par rapport au passé, c'est que c'était extrêmement volumineux et donc je ne pouvais pas les conserver. Et donc ça m'a obligé, parce que ça aussi, j'en porte la responsabilité, c'est-à-dire que si c'est resté chez moi, c'est que je n'ai rien fait pour que ça en sorte jusqu'à présent. Et là, je me suis dit, il va falloir que... Je pensais que le projet avait un certain intérêt, et donc j'ai fait une démarche pour qu'il sorte de chez moi, et ça a été rendu public pour le moment 2 fois, et ça va l'être une 3e fois. Et ça s'est fait en France une 1ère fois à Marseille, puis très vite, ça s'est fait à l'étranger, une fois, une 2e fois à l'étranger, parce que je rencontre ce même problème que je trouve pénible et pesant. C'est que la première démarche que j'ai entreprise pour ce travail, pour le rendre public, on m'a dit, mais Bérébi, vous êtes éditeur. Et alors là, vous voyez, mon énergie retombe. C'est-à-dire qu'on vous catalogue dans un domaine et surtout, il ne faut pas faire de vagues, il faut rester dans le domaine où vous êtes, quoi. Donc j'ai trouvé que quand j'ai rencontré ces gens à Prague, ça avait l'air de leur plaire, ils voulaient m'exposer, il n'y avait pas d'enquête sur ce que j'étais, si j'étais connu pour une chose ou pour une autre. Et ça rejoint ce que je vous ai dit au tout début de notre entretien. Je pense que c'est important que des gens qui ne viennent pas d'un milieu interviennent dans un domaine parce qu'ils apportent quelque chose d'autre, pas toujours réussi, mais il y a quelque chose de frais, quelque chose de vivifiant, quelque chose qui bouscule un petit peu l'ordre établi tel qu'il fonctionne avec les gens habituels avec lesquels il fonctionne.
On retrouve l'adage d'Alia, nous avons voulu des livres qui dérangent les hommes.
Ouais, j'assume complètement. Et si on l'affiche au fronton de nos boîtes dans les librairies, c'est parce que ce n'est pas qu'une coquetterie d'une jolie phrase que l'on a trouvée. C'est que ça traduit réellement et sincèrement notre démarche.
Après tout ce que vous nous avez dit depuis le début de ces entretiens, cette patte que vous imprimez à la Maison Alia, l'idée de faire une œuvre, votre œuvre, avec les œuvres des autres, en quelque sorte, je suis obligé de vous poser la question, Gérard Bérébi, est-ce qu'Alia pourra survivre à Gérard Bérébi ?
J'en sais rien. Ma première réponse. Ma deuxième réponse, c'est que si ça survit, c'est très bien. Si ça survit pas, c'est pas très grave. J'aurais au moins fait quelque chose. C'est-à-dire, je n'aurais pas tout à fait perdu mon temps et j'aurais fait quelque chose de mon temps.
Merci, Gérard Bérébi.
Merci.
Réalisation Olivier Guérin, prise de son Laurent Lucas, Jordi Robert, coordination Claire Poinsignon. À Voix Nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.